This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dakar. France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir au Sénégal et dans le monde arabe. Approche artistique, vous le verrez, c'est Ailleurs dans le monde de Michael Thébault. Culture, Stéphane Capron pour une rencontre avec l'auteur et metteur en scène originaire de Brazzaville, j'ai nommé Dieudonné Nyanguna, 18h55. L'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde sur le retour de la famine en Afrique. Et tout de suite, on va parler de populisme.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde.
Populisme, terme ancien qu'on emploie fréquemment avec des guillemets, faute de mieux, pour essayer de caractériser une puissante tendance de la politique contemporaine. Un mélange de démagogie, de pouvoir autoritaire, de critique, d'affaiblissement résolu des corps intermédiaires, des contre-pouvoirs de la démocratie. Ces mouvements se portent bien, même très bien dans le monde, et le remède reste encore à trouver. Éric Fassin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être au micro de France Inter. Vous publiez Populisme, le grand ressentiment aux éditions textuelles. Pour commencer, je le dis, le terme est malaisé, difficile à définir. Quelle définition donnez-vous de populisme ?
Je pense qu'il n'y a pas de bonne définition du populisme. C'est un mot qui est utilisé à des fins très différentes. Et comme c'est utilisé dans un contexte politique, il est important de se demander à quoi ça sert. Donc la question, c'est, par exemple, ce qui a été souligné depuis longtemps par un certain nombre de politistes, comme Annie Colovald, ou de philosophes, comme Jacques Rancière, c'est que populisme peut être une manière de disqualifier le peuple. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est nouveau, c'est qu'on commence à voir des gens de gauche qui, en France, en Europe, aux États-Unis, revendiquent à nouveau activement le terme de populisme en considérant que nous vivons un moment populiste et que donc il ne faudrait pas abandonner le populisme à la droite. Et c'est à la fois ce que j'essaie d'analyser, mais aussi de critiquer. Je pense qu'il est dangereux de prétendre récupérer à des fins de gauche un populisme qui aujourd'hui sert principalement la droite, voire l'extrême droite.
Voilà, alors on va venir à l'idée, à l'hypothèse compliquée d'un populisme de gauche. Après quelques questions sur le populisme de droite, enfin on dit le populisme en général, même pas de droite, Éric Fassin. Quelle est la dynamique aujourd'hui, le carburant du populisme d'après vous ?
Alors ce que beaucoup de gens soulignent, et à juste titre, c'est que le néolibéralisme participe de ce qu'on peut appeler, avec la philosophe et politiste Wendy Brown, une dédémocratisation, c'est-à-dire que la démocratie se vide de sa substance à mesure que les logiques néolibérales se mettent en place. C'est ce que, par exemple, Yanis Varoufakis avait bien montré à propos de l'Union européenne, le fait que des décisions puissent être prises sans qu'on sache véritablement par qui, et sans qu'il y ait même une liste des participants aux réunions ou des comptes rendus de ces réunions, eh bien c'est un indice parmi beaucoup d'autres du fait que la démocratie en Europe ne fonctionne plus vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est la logique néolibérale qui finit par l'emporter. Pour autant, on peut se demander dans quelle mesure le populisme, encore une fois le terme est flou et recouvre des réalités différentes, mais qui monte aujourd'hui en Europe, serait simplement la réaction au néolibéralisme. C'est-à-dire que ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est que, bien entendu, si le peuple est en quelque sorte exclu de la démocratie, eh bien il revient par la fenêtre, si l'on peut dire, du populisme. Or, en réalité, je crois que cela pose deux problèmes. Le premier, c'est que les populistes, aujourd'hui, peuvent être de droite. Les populistes peuvent être d'une droite néolibérale. Regardons par exemple Erdogan en Turquie. Regardons par exemple Viktor Orban en Hongrie. Regardons, bien sûr, Donald Trump aux États-Unis. Qui peut croire que Donald Trump va mettre fin au néolibéralisme ? En réalité, c'est Wall Street qui est aujourd'hui au pouvoir aux États-Unis. Regardons enfin le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe à la suite du Brexit ? Bien sûr, on peut nous expliquer que c'est un vote populiste, mais ce sont quand même les conservateurs de Theresa May qui sont au pouvoir. Donc la première chose, c'est que si on veut croire que le néolibéralisme va être battu par le populisme, c'est en ne tenant pas compte de la réalité aujourd'hui, du fait que les régimes néolibéraux sont très souvent des régimes populiste.
Mais alors comment expliquer, je vais formuler ma question différemment, que cette contradiction majeure qu'on voit à l'œuvre dans le populisme ne l'empêche pas de prospérer ?
je crois que, et c'est en tout cas la thèse que j'essaie de développer dans cet essai, le ressentiment est un moteur très important. C'est-à-dire que lorsqu'on constate qu'il peut y avoir des gens sans diplôme ou peu diplômés qui vont voter de manière disproportionnée pour quelqu'un comme Donald Trump. Mais c'est vrai aussi pour le vote Front National en France. Le diplôme est un bien meilleur indicateur que le revenu. Autrement dit, ce ne sont pas exactement les pauvres qui vont voter pour les populistes. Ça va être plutôt, et donc ça n'est pas le peuple, ce ne sont pas les classes populaires qui se mobilisent. Quand on regarde par exemple aux États-Unis, on s'aperçoit que parmi l'électorat blanc, eh bien, il n'y a aucune corrélation entre le revenu et le vote pour Donald Trump. Donc, ça n'est pas une question de revenu, c'est une question de rapport à la culture. Et là, on comprend quelque chose. C'est qu'il y a un ressentiment par rapport à l'impression que d'autres, grâce à leur diplôme dans le monde néolibéral, trouvent mieux leur place. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui expriment ce ressentiment soient eux-mêmes des pauvres. Ça veut dire qu'ils estiment qu'ils mériteraient mieux. Ce qui n'est pas la même chose. Et je crois qu'aujourd'hui, ce ressentiment culturel, il est paradoxal parce que, en fait, tout ce qu'on nous explique autour, par exemple, de cette notion un peu floue d'insécurité culturelle, c'est que les pauvres exprimeraient une insécurité culturelle, alors qu'en réalité, les pauvres, ils expriment d'abord une insécurité économique. En fait, l'insécurité culturelle, ça voudrait dire que, au fond, on vit dans un monde dominé par la question de la culture. Or, je crois que ça n'est pas vrai. Le capital culturel à l'ancienne, dont parlait Pierre Bourdieu, aujourd'hui, ça n'est plus ce qui fait la hiérarchie sociale. Mais en revanche, l'économie est bien présente, l'argent est bien présent. Et donc, le déplacement de la question économique à la question culturelle est une manière de nier les rapports de classe.
Et vous montrez bien, Éric Fassin, que le populisme contemporain, celui de droite, celui d'un Donald Trump, par exemple, donne le libéralisme aux riches et le nationalisme aux pauvres, en substance. C'est ça l'offre politique, elle est très bien segmentée et de ce fait très efficace.
Tout à fait, je reprends ici d'ailleurs l'analyse du politiste Jean-François Bayard qui développe ses réflexions à partir de la comparaison entre des pays très différents. Et je crois que c'est cela qui est important aujourd'hui, c'est que ce que nous pouvons vivre comme des exceptions liées à tel ou tel pays, cela doit être compris dans un ensemble beaucoup plus large, c'est-à-dire que le monde néolibéral, il produit effectivement cela, mais ça ne veut pas dire que ce soit la bonne réponse. Si le monde néolibéral produit le populisme, ça ne veut pas dire que le populisme soit la bonne réponse à cette dérive antidémocratique que représente aujourd'hui le néolibéralisme.
Alors, encore une question avant d'entrer dans le vrai problème du populisme de gauche. Encore une question sur ce que vous appelez, vous consacrez de longues pages au sujet, ce que vous appelez le moment populiste. En quoi ce terme nous éclaire-t-il et s'il nous éclaire, sur quoi, Éric Fassin ?
C'est un terme que j'emprunte à Chantal Mouffe qui, avec Ernesto Laclau, philosophe argentin décédé en 2014, a beaucoup réfléchi sur le populisme et surtout beaucoup contribué à acclimater ou à réacclimater ce terme à gauche, en particulier à partir de l'expérience de l'Amérique latine. Le moment populiste, eh bien, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'on voit un peu partout ces réactions contre les élites. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement du peuple, mais d'un peuple qui est constitué négativement contre les élites. Donc c'est le bas contre le haut. La question, c'est qu'à partir du moment où on parle de moment populiste, on peut avoir le sentiment que l'opposition entre la droite et la gauche, elle est seconde, voire secondaire. Lorsqu'on dit populisme de gauche, eh bien, on sous-entend qu'il y a un dénominateur commun entre le populisme de droite et le populisme de gauche, qui serait le populisme. Et que donc, cette distinction entre droite et gauche, elle viendrait plus tard. Je crois que c'est une erreur. Je crois que, non seulement c'est un problème théorique, mais surtout c'est un problème politique. C'est-à-dire, est-ce que on va pouvoir conquérir, par exemple, en France, les électeurs du Front National en étant de gauche et en leur proposant des arguments populistes? Eh bien, cela supposerait que la colère qui est manifestée par des électeurs de gauche est de même nature que la rancœur qui est exprimée par des électeurs d'extrême droite. Je crois donc qu'il faut distinguer le ressentiment qui aujourd'hui est portée par l'extrême droite, de l'indignation dont la gauche doit effectivement se faire porteuse.
Vous la citez à de très nombreuses reprises dans votre livre et vous avez prononcé son nom à l'instant, Chantal Mouffe. C'est elle qui s'affronte au problème du populisme de gauche. Est-ce que vous pourriez, on l'a reçu dans cette émission, mais restituer son raisonnement et l'urgence politique qu'il y aurait à définir à gauche une réponse au populisme de droite?
Je crois que Chantal Mouffe, donc, avec et après Ernesto Laclau, a essayé de tirer les leçons de l'expérience d'Amérique latine et en particulier d'Argentine, avec un impact important, en particulier en Espagne, où Podemos s'est explicitement inspiré de ces réflexions, mais aujourd'hui aussi avec une influence importante sur Jean-Luc Mélenchon, qui est revendiqué d'ailleurs par celui-ci. Pourquoi faut-il rappeler ces éléments? Parce que je crois que c'est une pensée historique. Elle a été construite en partie et en particulier dans le contexte de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, on va dire de Tony Blair. C'est-à-dire avec le sentiment que l'illusion du consensus, c'est le titre d'un ouvrage de Chantal Mouffe, eh bien, était ce qui, en quelque sorte, caractérisait ces... on va dire sociolibéraux ou néolibéraux travaillistes, mais bien sûr il ne s'agit pas seulement des travaillistes, la leçon pourrait s'appliquer aussi au Parti Socialiste en France et à bien d'autres partis en Europe. Donc qu'est-ce qui est en jeu? C'est le sentiment que la démocratie est en train de se vider, et là cela rejoint les analyses de Wendy Brown que j'évoquais antérieurement. La démocratie se vide parce que au fond on refuse de poser un clivage. La question, c'est de savoir la nature de ce clivage. Il y a deux possibilités bien distinctes. Soit on va partir d'une opposition entre le haut et le bas, entre le peuple et la caste, comme on le dit plutôt en Espagne, ou les élites, comme on le dit plus volontiers dans d'autres pays, ou l'establishment. Ou bien est-ce qu'on va partir de l'opposition entre droite et gauche? Pour ma part, je crois qu'il est très coûteux de subordonner l'opposition droite-gauche à une opposition entre le haut et le bas. Parce que finalement, le haut et le bas, eh bien, effectivement, et c'est le succès du moment populiste, tout le monde peut s'en emparer. Tout le monde peut se dire qu'on est du côté du bas. Et on le voit bien aujourd'hui. Tout le monde est contre le système, de Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Personne ne revendique d'être du côté des élites. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'on est du côté du peuple ou du côté des élites, puisque tout le monde est du côté du peuple, mais qu'est-ce qu'on propose au peuple? C'est-à-dire, au lieu d'avoir une représentation en quelque sorte sociologique de l'opposition politique, eh bien il est important de voir que c'est une opposition idéologique, ce sont des visions du monde différentes qui devraient s'affronter. Or, pourquoi aujourd'hui sommes-nous collectivement si sensible à cette tentation de penser que la vraie opposition ce serait entre le haut et le bas? C'est pas seulement parce que effectivement il y a des inégalités criantes et scandaleuses. C'est pas seulement parce qu'il y a des gens très riches et des gens très pauvres. C'est pas seulement pour ça. C'est aussi parce que nous ne savons pas toujours très bien quel contenu nous voulons donner à une gauche. C'est-à-dire que si nous avions un contenu positif pour dire la gauche c'est ceci ou bien cela, nous serions moins tentés de dire la gauche est contre ceci ou cela, contre les élites. En fait, le problème n'est pas tant d'être contre les élites, mais de proposer une vision du monde.
L'avantage, je dirais, du populisme de gauche, c'est qu'il reprend les armes du populisme de droite et que ça ferraille, du coup, très rapidement et très durement sur le même terrain. Le progressisme, c'est long, c'est compliqué, c'est lent, c'est subtil, ça a du mal à se coltiner à la violence populiste. Est-ce que la crise n'est pas là, dans l'incapacité de la démocratie à formuler un contre-discours aussi cinglant que le discours populiste?
La question est double. D'un côté, est-ce que effectivement il y a des manières rapide, efficace, de faire de la politique.
Parce qu'en face, c'est efficace et rapide. Hein.
Mais c'est efficace pourquoi ? C'est-à-dire c'est efficace parce que c'est entendu. Certes, mais qu'est-ce qui est entendu et par qui ? Est-ce qu'on a vu les électeurs de Marine Le Pen basculer de l'autre côté ? Est-ce qu'on a vu les électeurs de Donald Trump basculer de l'autre côté ? Il n'y a pas de porosité. Par exemple, le terme de gaucho-lepénisme qui était proposé par Pascal Perrineau il y a un certain nombre d'années n'est plus reçu aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens de gauche ne basculent pas du côté du Front National. Et à l'inverse, on ne peut pas penser que les électeurs du Front National vont basculer du côté de la gauche. Donc il n'y a pas de porosité entre les deux. Donc à quoi sert ce discours populiste ? Il ne fait pas basculer les gens. En revanche, il fait qu'on parle dans les mêmes termes que l'extrême droite. Donc il est très coûteux. Lorsque, pour ma part, j'avais publié il y a 3 ans un petit essai qui s'appelait « Gauche, l'avenir d'une désillusion ». Et qu'est-ce que je disais ? Je disais, un des problèmes du Parti Socialiste, c'est qu'il dit la même chose que la droite. Et que l'effacement de cette distinction entre la droite et ceux qui sont censés être de gauche, eh bien, ça mine de l'intérieur la démocratie. Mais il ne suffit pas de faire la même chose avec l'extrême droite, c'est-à-dire de participer d'un même discours en disant qu'ensuite on va différencier. Ça, ce serait, à mon avis, une illusion. On ne peut pas partir du sentiment que c'est avec des gens comme Donald Trump qu'on va lutter contre le néolibéralisme.
Mais on voit la rapidité avec laquelle les piliers de la démocratie peuvent être attaqués et volontairement fragilisé. C'est en ça que je dis que le populisme, quand il arrive au pouvoir, est rudement efficace. Il fait ce qu'il dit.
Absolument, mais pour l'instant, c'est surtout un populisme de droite. Lorsqu'on voit ce qui se passe en Turquie aujourd'hui, par exemple, effectivement, on peut se dire que la démocratie se défait très rapidement.
Très rapidement.
Lorsqu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis, et lorsqu'on voit, par exemple, que Donald Trump explique que les médias ne représentent pas le peuple puisqu'ils ne sont pas d'accord avec lui, eh bien, on s'inquiète effectivement. Mais en France aussi, on l'a vu ces dernières années, il y a une véritable inquiétude sur la démocratie qui, à mon sens, est très importante. Mais face à cela, je crois qu'il est très important d'essayer de proposer une vision du monde, une idéologie, c'est-à-dire d'essayer de donner un contenu à la gauche. Ce que l'on peut reprocher, par exemple, au Parti Socialiste Français, qui est au pouvoir depuis des années, c'est d'avoir fini par se confondre avec son adversaire, non seulement en matière de politique économique, non seulement en matière de politique d'immigration, mais aussi lorsqu'il s'agit des questions de violence policière, c'est-à-dire sans aucune distinction lisible entre la droite et la gauche. Je crois qu'il faut commencer, si on veut la démocratie, par penser le fait que ça ne doit pas être la même chose de voter pour les uns et pour les autres. Il doit y avoir une alternative. Ce que, depuis des années, la droite néolibérale nous a répété, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Si nous ne nous reconnaissons pas dans ce projet de la droite néolibérale, il faut essayer de faire en sorte qu'il existe une alternative, que la droite et la gauche, ça ne soit pas la même chose.
Éric Fassin, merci. Populisme, le grand ressentiment est publié aux éditions Textuel. Merci encore d'être passé au micro de France Inter. Dans quelques instants, le journal de l'International. With a capital G, ballin' the beat. Status Chris Paul or John Wall in the league. Grab a mic, still the knuckles will bleed. Cause I believe the potent and I'm potent. Have you geek like speed? If rationale is natural, I will weave. It's all edges and peace. Setting press free on a permanent speed. I'm in the world where my princess is player. And she feeling my Vader. And my lore grows greater and greater. Pim trails, dropping poisonous vapors. Have you shaking like Gator. Been trill, nigga, prostitute data. Blu-ray, wave, follow a beta. I DVR for later. Cop a monster with a G to my waiter. You can't define. Minus X, Y, Z, it's the generational elitist. Happy cheating, virtual think pieces. See these written words, poetical science. Brains defiant, thoughts heavy, baby. They're a major appliance. Leave a tad when dropping to flyness. Do a giant, dude's nice. He tight screwed in with some pliers. Cool with some buyers, yeah, nigga. Cool with some growers. Never know tattletales, only I don't know us. Yeah, show me generation, show us what you gon' show us. So listen, mommy, see, we could collude with a boy. Mouthpiece like coins with a jubilant noise. Dude's rude and as useless as coins. Shoot them, boys. Versed and rehearsed in the soothing of loins. Talk to Joey Earl, Kendrick Cole. Gatekeepers afloat, they are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. One hit and reading pages of
the pole. Telly is low, cuddle bunny ready to go. Day of the dead,
bury all the zombies instead.
And it's just your aftermath, bust a cut in your dreads.
Bruce Lee and niggas, Ryo niggas, UFC. Smoke trio niggas, sizzle out your USB.
Surge pricing on these Ubers, I'ma give me a cab.
Now where'd your Obi at?
Arriving on impeccable grass, I'll be in my seat waiting for that law to pass.
Cash it, been waiting for a Jets title since last. Such a Todd Bowles, gangrene on that ass.
Magic Mike on the mic, David Blaine Douglas Henning.
In the church of Busta Rhymes, it's my sermon, you get it. Horizontal spitting, I'm the exorcist of your witness. Don't interrupt me, nigga. Sorry, that's a sin unforgiven. Like how we be skipping on bees like cooking crack in the kitchen.
Wait, just start the package, dry it, bag up the wet. This Man City's not a game, easy, quiet on set. Fine,
student of the past, trailblazing the day. Not acknowledging a trend, I swept up in a phase. We still the highest of commodity grades. And you can get it, get it, get it, get it, get it today.
A Tribe Called Quest sur Inter, 18h37.
30 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer cette ailleurs dans le monde, on part au Sénégal à la découverte d'un lieu quasi unique dans le pays et dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Et qui s'appelle la Maison Rose, une maison d'accueil pour femmes en détresse, Nicolas. Et des femmes parfois, de très jeunes filles, victimes de viols, d'inceste, de prostitution ou de mariages forcés, ou bien encore rejetées et harcelées par leur propre famille. Parce qu'enceinte, sans être mariée, alors ce n'est pas la seule structure pour femmes du Sénégal, mais son approche en revanche est absolument unique, car il ne s'agit pas seulement d'apporter sécurité et soins médicaux. Ici, l'accompagnement peut durer 1 an, 2 ans, voire plus. En fait, le temps qu'il faut à chacune pour se reconstruire et retrouver une place dans la société. Ces femmes sont encouragées à s'exprimer, à raconter leur histoire, ce qui peut paraître banal dans les sociétés occidentales, mais qui ne l'est pas du tout dans un pays où la soutoura, la discrétion pudique est une valeur essentielle. On ne parle pas de ce qui ne va pas, on subit en silence. Direction donc cette Maison Rose à Guédiaouai, banlieue pauvre de Dakar. Reportage signé Amélie Tulé.
C'est une grande bâtisse à l'angle d'un carrefour très fréquenté. Les murs sont blancs, seuls les volets et les balcons sont peints en rose.
Bonjour.
À l'intérieur, une grande cour colorée et fleurie entourée de hauts murs avec un escalier central. Ici, on aime dire que c'est comme un ventre qui protège ces femmes. Oumi a 21 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle était arrivée à la Maison Rose depuis 2 semaines.
Ma famille m'a forcée à épouser un homme dont je ne voulais pas. J'ai dû arrêter l'école alors que je voulais continuer mes études. Et au village, on me faisait travailler au champ. Je n'y connaissais rien. C'était vraiment dur. Je me suis alors enfuie chez ma sœur et elle m'a dit « rentre au village ». Mais je ne voulais pas retourner chez ce mari.
Oumi découvre le rythme de la Maison Rose, levée 6 heures, tâches ménagères partagées et 2 ateliers par jour, groupe de parole, conte, yoga, pétanque ou encore théâtre. Ici, tout est support pour que les femmes s'expriment. C'est l'idée d'une Française, Mona Chasseriot, elle qui avait fondé dans les années 90 Cœur de Femmes à Paris. C'est elle qui anime la réunion du vendredi où chacune fait le point sur sa semaine.
On va commencer par Nday.
Cette semaine, au début, j'avais très mal à la tête. Je ne pensais qu'à mes enfants. Il me manque. Je me demande quoi faire pour les récupérer et vivre avec eux normalement.
Quelle qu'en soit l'origine, au Sénégal, une grossesse hors mariage est toujours un problème. Jeunes filles ou femmes mûres, toutes racontent le harcèlement dont elles ont été victimes quand elles n'ont pas simplement été chassées de chez elles.
Je m'appelle Senabou Diatta. Au début de la grossesse, c'était très dur. Je me disais, mieux vaut que cet enfant naisse mort-né, car je ne savais pas quoi faire.
En 8 ans, Mona Chasseriot a formé une équipe de Sénégalais. Soda Gay s'occupe spécifiquement du suivi des grossesses à la Maison Rose.
Dans sa famille, un homme qui a eu un enfant hors mariage, lui, il n'est pas inquiété dans sa famille, il n'a aucun problème, contrairement à la jeune fille qui vit des misères dans sa famille. Donc, du genre, on cautionne aux hommes d'avoir des relations hors mariage, contrairement à de l'autre côté, on interdit aux femmes d'avoir des relations hors mariage et aussi On leur demande de s'abstenir alors qu'on ne demande pas aux hommes de le faire.
22 mineurs vivent également dans cette maison rose, des enfants nés ici ou des jeunes filles mises à l'abri. Sophie a 15 ans, elle vivait une vie d'errance avec sa mère quand elle a été violée.
C'était tellement dur de vivre dans les rues.
C'était tellement dur. Je vivais dans les rues. Un jour, j'étais partie chercher quelques trucs à vendre. Un homme m'a trouvée. Il avait un couteau. Il a menacé de me tuer. J'avais peur. J'ai fait ce qu'il a dit. C'est comme ça que je suis tombée enceinte.
Son fils a déjà 2 ans, 2 années passées à la Maison Rose qui lui ont permis de se découvrir une passion, le cirque. Sophie fait désormais partie d'une troupe à Dakar. Quand un retour en famille est possible, la Maison Rose organise des médiations. Sinon, des formations sont proposées pour que les femmes aient un métier. Difficile d'obtenir des chiffres dans un pays où la majorité des victimes de viol ou de violence ne portent pas plainte. Mais selon une étude menée en 2015 par l'université Gaston Berger de Saint-Louis, 55% des Sénégalaises sont victimes de violences physiques ou morales dans leur foyer.
Voilà un reportage à la Maison Rose de Guédiawaye, près de Dakar, signé Amélie Tulé.
Et de l'Afrique, on passe au monde arabe, Michael, avec l'une des plus belles collections au monde d'art moderne arabe.
Oui, d'art moderne et contemporain, collection qui est en fait une infime partie des trésors de la fondation Bargil, une fondation créée dans la ville de Sharjah aux Émirats Arabes Unis par un homme, Sultan Sohoud al-Qassemi. En à peine 2 décennies, ce jeune quadra émirati a réuni plus d'un millier d'œuvres, peintures, des huiles, aquarelles, gouaches, des sculptures, des photos, des œuvres du proche et du Moyen-Orient, du Maghreb, du Golfe, et il en expose donc la fine fleur, un peu plus d'une centaine au total, à l'IMA, l'Institut du Monde Arabe à Paris, un siècle d'art moderne et contemporain arabe. À l'origine du projet, sa rencontre avec cette institution parisienne, l'IMA, et son président, dites donc, Jack Lang, Sultan Sohoud al-Qassemi.
C'est une contribution qui a commencé il y a 2 ans, lorsque j'avais parlé avec des responsables de l'IMA, de l'Institut du Monde Arabe, et j'avais rencontré le président de l'Institut, Jack Lang, que je considère comme un des grands contributeurs à la relation entre la France et le monde arabe. Je leur avais proposé une telle exposition et nous avons commencé ainsi. Nous avons proposé une exposition avec 100 œuvres du monde arabe, des œuvres récentes et des œuvres contemporaines, d'hommes et de femmes, du Maghreb jusqu'au Golfe. Nous avons essayé à travers cette exposition de présenter des œuvres d'artistes connus et d'autres artistes moins connus, des chefs-d'œuvre comme on dit en français. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas très connus, même au sein du monde arabe. C'est un voyage pour découvrir l'art arabe.
Et à travers tous ces artistes exposés, on traverse également plus d'une quinzaine de pays différents, autant de cultures, autant de rapports à l'art. Alors y a-t-il une caractéristique commune, une spécificité de l'art moderne arabe ? Élément de réponse.
L'art arabe, en réalité, est très divers en fonction des cultures, de la diversité des cultures du monde arabe. Nous avons beaucoup de communautés, de citoyenneté au sein du monde arabe. Nous avons les Berbères, nous avons les Kurdes, les Arméniens. Et donc, il y a beaucoup de communautés. Il n'y a pas un seul art dans le monde arabe. Ce que j'ai vu ces dernières années, c'est qu'il y a parfois une réaction similaire, des réactions similaires face au même phénomène, par exemple l'occupation de la Palestine ou face au printemps arabe.
Voilà, les printemps arabes qui ont entre autres permis de découvrir de nombreux artistes, notamment tunisiens, syriens ou égyptiens, qui aujourd'hui exposent dans les grandes galeries européennes ou américaines, artistes souvent très engagés. Et ce n'est pas nouveau dans l'art moderne arabe, la politique y est toujours omniprésente depuis près d'un siècle. Sultan Sohoud al-Qassemi.
Beaucoup d'artistes qui ont peint des œuvres politiques durant les 100 dernières années étaient des œuvres consacrées aux différents événements politiques de la colonisation jusqu'au printemps arabe en passant par l'occupation de la Palestine. Nous voyons de nouvelles générations aujourd'hui de l'art arabe. Et l'art est une forme de résistance à l'occupation, par exemple. Il y a des questions comme les droits de l'homme, les droits de la femme, le droit de l'homme à vivre, et d'autres questions. Nous avons vu ces thématiques brandies lors des printemps arabes, et ce sont des questions d'actualité encore. Mais malheureusement, à cause de la répression de la société civile dans le monde arabe, la répression des parlements, de la presse libre, l'art est devenu pratiquement la seule façon que le peuple possède pour exprimer son opinion face à ses gouvernants.
Et aux avant-postes aujourd'hui de l'engagement politique arabe au sens large, il y a souvent, vous le savez, des femmes, nombreuses artistes femmes, y compris ici dans l'exposition.
Oui, il y a des artistes femmes dans le monde arabe qui font partie des pionnières de l'art arabe depuis le début du XXe siècle. Des artistes du Liban, de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak. Et nous avons des artistes comme Nadia Ahari de Tunisie dans cette exposition qui parle de l'immigration et du mur auquel fait face le migrant. D'autres artistes de l'Arabie Saoudite, par exemple, qui parle des droits de la femme en Arabie Saoudite et dans le Golfe. Nous avons une autre artiste du Liban qui parle des drones et de leur usage dans le monde arabe.
Et vous vous en doutez, pas toujours facile hein, pour un passionné d'art contemporain d'exposer toutes ses œuvres. Certaines peuvent évidemment choquer, mais notre collectionneur a su s'adapter aux différentes sensibilités culturelles, politiques ou religieuses.
Ce que j'essaie de faire, c'est de présenter des œuvres tout en respectant la société. Nous avons, par exemple, des nus, des œuvres qui présentent des nus. J'apprécie ces œuvres, mais je ne les expose pas dans des sociétés conservatrices. Je les expose dans des sociétés qui peuvent les recevoir de façon positive. Dans les pays du Golfe, c'est difficile de présenter des œuvres qui critiquent les gouvernements, par exemple. Mais ceci est plus facile dans d'autres pays arabes, comme le Liban, la Tunisie. D'autres pays connaissent une certaine sensibilité, délicatesse religieuse. Mais en France, je peux tout exposer. Je n'ai pas d'interdit ici.
Voilà, Sultan Soud Al-Kassemi, sans interdit, donc ici à Paris, sans chef-d'œuvre de l'art moderne et contemporain arabe, la collection Bargil. C'est depuis ce matin et jusqu'au 2 juillet à l'Institut du Monde Arabe. À demain, Nicolas.
À demain, Mickaël.
Mais on a une réception dans une demi-heure, alors allez tous vous habiller.
Et voilà.
Good morning, good morning. It's great to stay up late, good morning.
Un jour, good morning dans le monde, sur France Inter.
Culture encore, Stéphane Capron nous propose ce soir une rencontre avec l'auteur et metteur en scène originaire de Brazzaville, Dieudonné Nyanguna. Il est actuellement au Théâtre National de la Colline. Il présente « Antoine m'a vendu son destin », Sony chez les chiens.
Dieudonné Nyanguna mêle aussi dans ce spectacle son histoire personnelle, car il a côtoyé cet auteur. C'est un peu comme son deuxième père, c'est celui qui lui a donné goût au théâtre. Et si, aujourd'hui, en Afrique et dans le monde, Dieudonné Nyanguna est ce qu'il est, il le doit pour beaucoup à Sony Laboutancy.
Il est important de reconnaître l'endroit d'où il m'a tendu la main, et surtout, l'opération de comment j'ai transcendé ces choses-là, mais pas pour dire « je suis génial, j'ai transcendé quelque chose ». C'est pas ça, c'est pour le partager aux jeunes d'aujourd'hui, leur dire « vous savez, si quelqu'un vous donne un poème, la beauté de cette chose-là serait que vous vous transformez avec ce poème-là ». Et donc c'est intéressant de dire que mon père, il m'a donné, il m'a mis des livres entre les mains, et ces livres m'ont mené à lire Sony. Et là, Sony m'a donné sa littérature, et de la littérature de Sony, j'ai accouché mon théâtre à moi. Et c'est ce chemin qui est intéressant. Comme on dit un peu dans la tradition congo, hein, Wadia Foyi Kadio, ça veut dire quoi? Si tu hérites de quelque chose, il faut que tu le fasses fructifier. C'est à ça que ça sert l'héritage.
Mon pays, mon ex-pays, veut m'enfonder la guerre civile. Je dis très bien et bravo. Vous m'avez tué. Rappelez-vous, crise cardiaque. Antoine jouit d'un congé forcé dans les oubliettes de la patrie. Et je peux vous jurer que mes vacances idéologiques se passent merveilleusement.
Il est mort jeune, il est mort à 47 ans, vous l'avez rencontré la première fois, vous étiez quoi? Vous aviez 17, 18, 19 ans?
18, 19 ans comme ça, ouais. C'est-à-dire moi je partais voir ses répétitions déjà quand j'étais gamin, on nous chassait donc on guettait. Puis ces pièces de théâtre, quand c'était joué au CEFRAD, au Théâtre National ou ailleurs, on partait voir. Là, quand c'était le spectacle, c'était ouvert, donc tu payais un ticket, tu rentrais. Mais les répétitions, ça devait partir voir le répéter en gaieté. Moi, je me souviens, j'avais vu une des répétitions de Antoine m'a vendu son destin, mise en scène par Daniel Mesguich. Il répétait au collège Mobutu Raphaël à Brazzaville, non loin du cercle culturel Sonny Labutansi, qui à l'époque s'appelait le cercle culturel de Bakongo. Donc, j'avais vu un bout de répétition. J'avais vu Mesguich là, ce mec qui vient de France, grand metteur en scène, qui dirige les comédiens là. Sans savoir que des années après, Mesguich, c'est quelqu'un, tu vois, qu'on se connaît, on rigole. Il m'a déjà invité deux fois au Conservatoire d'art dramatique supérieur de Paris pour diriger donc des élèves de deuxième année pendant une session. C'est intéressant de savoir qu'un gamin de 9 ans, de 10 ans qui va guetter une répétition de théâtre parce qu'on ne lui donne pas le droit de rentrer, donc à travers les claustres, il guette, il voit un metteur en scène qui est en train de diriger les comédiens là, tout blabla. Et le jour, le lendemain, c'est ce gamin-là qui va écrire du théâtre dans ce pays et qui va le faire. Ce qui est important dans l'histoire, c'est ça, c'est ces belles articulations-là. C'est ces allers-retours-là d'échanges culturels, d'échanges émotifs, de la transmission, de l'héritage. L'important est toujours de savoir le fructifier, de savoir avoir l'esprit de transcendance pour évidemment accoucher son soi à l'intérieur de quelque chose qu'on nous a donné.
On doit malheureusement mettre un terme à cet entretien qui pourrait durer des heures, car Dieudonné Nyanguna est un personnage attachant, c'est un véritable moulin à paroles. Il peut vraiment vous parler pendant des heures sans s'arrêter. Alors pour une fois, son spectacle est court, 1h30, et du coup c'est certainement depuis longtemps le spectacle le plus abouti pour entrer dans son univers.
Antoine m'a vendu son destin, Sonny chez les chiens. C'est donc jusqu'au 18 mars au Théâtre National de la Colline à Paris. Grace Jones, puis Vincent Giray. Jones, donc, sur Inter, l'édito. Avec Vincent Giray du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez ce soir Vincent en Afrique de l'Est où la famine est de retour.
Oui, la famine est un phénomène ancien qui nous semble aussi vieux que l'humanité. Et mais beaucoup avaient pensé, un peu vite manifestement, que notre monde l'avait enfin éradiqué, terrassé depuis quelques années. Eh bien, il n'en est rien Nicolas. Et le pire est plus que jamais possible. La preuve, dans la corne de l'Afrique, on voit ici ressurgir les mauvais fantômes du passé, les grandes famines qui ont ravagé l'Afrique pendant des siècles. On en parle peu, cela ne fait même plus les grands titres, mais 7 pays se débattent aujourd'hui dans une course contre la mort. Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie, le Soudan du Sud et dans une moindre mesure la Tanzanie. Dans ces pays, donc, plus de 20 millions de personnes sont aujourd'hui en urgence alimentaire et humanitaire absolue selon les chiffres tout juste publiés par l'ONU. Des dizaines de milliers de personnes tentent de fuir les zones touchées par la sécheresse et errent à la recherche de denrées de survie. D'autres végètent dans des camps qui prennent déjà des allures de mouroirs, des centaines d'écoles ont été fermées, des maladies se propagent déjà. Nous sommes face à une tragédie, nous devons éviter qu'elle devienne une catastrophe. Annoncé la semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, nul ne pourra dire qu'il n'a pas été prévenu. Les organisations humanitaires affirment que des dizaines de milliers de personnes pourraient mourir là, ici, dans les heures et les jours qui viennent, Nicolas.
Mais comment expliquer, Vincent, qu'on en soit arrivé là, à cette tragédie donc aussi rapidement ?
Eh bien, 3 années consécutives de sécheresse, des phénomènes météorologiques dévastateurs, El Niño, La Niña. Mais Nicolas, il faut insister, la famine n'est plus un cataclysme naturel aujourd'hui, comme elle l'a été longtemps dans le passé, comme elle le demeure d'ailleurs dans nos mémoires parfois. Non, la famine est largement un phénomène fabriqué par des hommes dans des conditions particulières. Il faut d'abord rappeler que l'Afrique est déjà le continent le plus affecté par le dérèglement climatique. Les experts du climat annoncent déjà qu'à l'avenir, les sécheresses seront plus nombreuses, plus régulières et plus intenses. L'humanitaire français Ronnie Broman constate aussi que ces 3 années de sécheresse dans la corne de l'Afrique, ce sont d'abord des conflits, des déplacements de population et la prédation politique qui en sont à l'origine. Des guerres civiles, des conflits ethniques, religieux, politiques, parfois les trois en même temps, mais aussi les méfaits d'organisations djihadistes comme la secte Boko Haram participent directement au drame qui se joue actuellement dans l'Est de l'Afrique, sur fond souvent d'États faillis, d'États effondrés aux mains de bandes rivales incontrôlables.
Et a-t-on encore une chance, Vincent, de sauver ces 20 millions de personnes ?
Alors les organisations internationales ont déclaré le branle-bas de combat et se démènent. Trouver l'argent nécessaire autour de 2 milliards de dollars ne semble pas le plus difficile. C'est une petite levée de fonds finalement dans un monde où s'échangent plus de 4 000 milliards tous les jours. Mais la difficulté est ailleurs, Nicolas. La distribution de l'aide est souvent périlleuse dans les zones de guerre. Des territoires entiers sont verrouillés par des groupes armés. Les humanitaires sont souvent obligés d'avoir recours au largage par avion de l'aide d'urgence. Et si l'on s'y prend mal, tout l'argent de l'aide internationale peut finir dans les poches des responsables corrompus et avoir des effets pervers, prévient déjà un humanitaire. S'il fallait une nouvelle preuve que nous avons plus que jamais besoin d'une communauté internationale organisée, structurée, prête à agir, plus que jamais besoin aussi d'agir vite contre les dérèglements climatiques, eh bien le drame de la corne de l'Afrique devrait suffire et décider enfin les plus sceptiques à agir et à conjurer leurs efforts. Que des gens meurent de faim par milliers en Afrique au 21e siècle n'est ni inévitable ni une fatalité et moralement, il faut le redire, c'est aussi accablant qu'inacceptable.
Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20 consacré ce soir à ce sujet majeur qu'est le logement. Majeur mais marginal dans la campagne présidentielle. Si les principaux candidats ont planché devant la fondation Abbé Pierre il y a quelques semaines, aucune réforme profonde n'est proposée pour régler les problèmes de difficulté d'accès au logement, les problèmes de mal logement, les prix parfois prohibitifs, voire tout simplement l'impossibilité de trouver un toit. Débat ce soir, intervenez au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr via Twitter avec le mot-clé Telson. Nos invités seront Christophe Robert, délégué général précisément de la Fondation Abbé Pierre, et Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Le journal de Sébastien Paour est à suivre.